Avec les soldats de l'Alliance du Nord, de nombreux reporters sont entrés dans Kaboul cette semaine. Reporters qui nous ont envoyé chaque soir à la télévision des images et parfois des impressions très fortes.
C'est une ambiance euphorique ou est-ce que l'accueil finalement réservé à l'Alliance du Nord est plus mitigé ?
Ah non, l'accueil n'a pas été mitigé du tout. L'accueil a été extraordinaire ce matin.
Le reporter de guerre, son rapport au danger d'abord, alors que trois de nos confrères sont morts cette semaine en Afghanistan avant la prise de Kaboul. Le reporter de guerre, son rapport à l'armée qu'il suit. Le reporter de guerre et comment, dans les temps morts, quand les armées n'avancent pas, comment il a des difficultés à trouver des images et des informations. Avec nous aujourd'hui deux reporters de guerre qui reviennent d'Afghanistan tous les deux, Patricia Lémonière de TF1, Claude Samper de France 2. Vous avez tous les deux passé environ 3 semaines aux côtés de l'Alliance du Nord et vous étiez, si j'ose dire, cantonné à Rajabahouddin, qui est une des capitales de l'Alliance du Nord avant la prise de Kaboul. C'est Hélène Risser qui a mené l'enquête, comme chaque semaine, avec Michael Richard. Avec Sophie Bourne-Bennett, nous arrêterons sur d'autres images en provenance de Kaboul, tandis qu'avec David Abiker, nous allons commencer par des images, disons, diplomatiques.
C'était la semaine dernière aux Nations Unies. George Bush fait un discours où il apparaît très à l'aise, tellement à l'aise qu'un premier détail n'aura sans doute pas échappé à votre attention. On peut regarder les images.
On ne devrait pas inciter à la violence ou à la haine contre les minorités religieuses et chacun dans chaque pays doit pouvoir vivre sa religion et la pratiquer d'après ses propres coutumes. Et chaque pays devrait donner à chacun la possibilité de s'exprimer de manière pacifique.
Alors, j'espère que le détail ne vous aura pas échappé. George Bush fait un clin d'œil que vous allez peut-être revoir si vous ne l'avez pas vu. Clin d'œil dont on se demande finalement à qui il s'adresse. Alors, s'adresse-t-il à Yasser Arafat, dont on a appris plus tard qu'il avait refusé de le saluer avant et après le discours ? A priori, non.
Que Bush avait refusé de saluer Arafat.
Tout à fait. Hein, tout à fait. Clair. S'adresse-t-il aux Israéliens qui ont pratiqué la politique de la chaise vide ? Non. Alors, on aura peut-être un indice après, puisqu'un autre détail, à la fin du discours, vient peut-être nous éclairer. Alors, Colin Powell accorde visiblement un satisfait site à son patron, le président des États-Unis. Alors, si tant est qu'évidemment, ce pouce levé de satisfait site soit adressé à George Bush. Alors, s'il l'était, ça traduirait la grande connivence entre George Bush et son secrétaire d'État à la Défense nationale. Ça pourrait également traduire un certain ascendant de Colin Powell sur le président. Et évidemment, ça traduit aussi, dans ce type d'assemblée très formelle, le niveau de décontraction des Américains qui font des clins d'œil ou qui s'accordent des coups de pouce. Et quand bien même l'un n'aurait pas adressé un clin d'œil à l'autre et l'autre n'aurait pas répondu au premier avec son coup de pouce, on peut imaginer et on constate que l'enchaînement du discours de l'Assemblée qui applaudit et du satisfait site de Colin Powell, c'est une belle pub pour les Américains, puisqu'on voit tout de suite que le discours a fait un tabac, bien évidemment.
Voilà, enfin, on le voyait sur LCI. Hein. Toujours à New York, le crash d'un Airbus lundi dernier a donné aux téléspectateurs et à tous ceux qui l'ont appris presque en direct la sensation de revivre le 11 septembre dernier. Alors dans les tout premiers instants d'un événement comme celui-là, comment départager la thèse de l'accident et la thèse de l'attentat ? Choix différents faits sur LCI et sur France 2, choix décrypté par les élèves de 5e du collège Albert Camus de Ris-Orangis dans l'Essonne.
Pour asseoir leur pouvoir, ils se sont alliés au Hasari.
Voilà, nous avons arrêté ce reportage car nous avons une information importante. Un avion viendrait de s'écraser sur New York. Nous avons pu joindre notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. On voit de la fumée, que se passe-t-il ?
Eh bien écoutez, effectivement, un avion vient de s'écraser il y a quelques minutes dans le Queens.
On comprend que c'est tout de suite parce que c'est un reportage, ils le coupent Et ensuite, elle s'excuse et elle donne un autre reportage. Donc on pense plutôt que c'est un direct tout de suite.
Cela vient juste d'arriver, je n'en sais pas plus pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que les conditions météo ici sont très bonnes. Donc l'hypothèse là d'un accident est totalement exclue. Il s'agirait donc encore vraisemblablement d'un attentat.
Toi, tu retiens quoi?
Il semblerait que ce soit un attentat.
Et dans cette phrase, tu sens plus de certitude ou plus de doute?
Certitude. Il pense que c'est un attentat parce que normalement, s'il en aurait eu un accident, il devrait pleuvoir ou de la grêle.
En fait, ils disent que c'est un attentat, mais en vérité, ils sont pas vraiment sûrs. Ça peut être, comme il disait, ça peut être une panne technique ou quelque chose d'autre, un moteur qui a lâché.
Je pense que c'est pas un attentat parce que ça peut arriver, comme au Concorde.
L'hypothèse là d'un accident est totalement exclue, il s'agirait donc encore vraisemblablement d'un attentat.
En fait, c'est tellement rapide dans la tête du journaliste qu'il pense qu'un attentat. C'est comme ça s'est passé à New York. Bah, c'est tout de suite attentat.
Il repense aux images, ça doit... Je sais pas, moi je serais à sa place, ça me ferait bizarre.
Mais s'il y a 2 mois, il y a rien qui serait passé, ils auraient d'abord pensé à la thèse de l'accident.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous informer qu'un Boeing 767 de la compagnie American Airlines s'est écrasé il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant, juste après son décollage de l'aéroport Kennedy à New York. Aucune indication pour l'instant sur l'origine de cette explosion, accident ou attentat. Étienne Lénard, vous êtes avec nous en ligne de Washington.
Ils disent qu'ils ne le savent pas, alors que le premier sujet, ils disent qu'ils pensent que c'est un attentat.
Et là, ils ne nous donnent pas une version. Là, on a deux. On a un attentat et accident. Donc, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut croire.
Personne ne s'avance parce que vous imaginez que dans le climat actuel, il serait très facile de tirer une conclusion sur une nouvelle tentative d'attentat.
Alors, ils disent que personne ne s'avance, que ce soit ici ou en Amérique. Et donc, voilà.
Ils ne veulent pas s'avancer à dire des choses qu'ils vont regretter peut-être après. Parce que s'ils disent un attentat, par exemple, s'ils disent que c'est Ben Laden qui a fait l'attentat, après, Ben Laden, ça ne va pas lui plaire, il va avoir des représailles.
Voilà, l'interprétation était libre hein, et les propos étaient recueillis par Raphaël Bott. Aucun de vous deux n'est chef de sa rédaction, hein, aucun de vous deux n'est directeur de l'information. Et cependant, vos deux chaînes ont fait à peu près le même choix en ce lundi après-midi d'accorder à peu près 3 heures de couverture en direct à l'événement avant de rendre l'antenne vers 18h30. 3 heures, alors que finalement, on savait toujours pas. Ça vous paraît normal ou ça vous paraît un peu beaucoup, Patricia Lémonière?
Moi, je pense que ce qui était normal, c'était de prendre l'antenne tout de suite. Et ce qu'il fallait faire, effectivement, c'était commenter. Alors, la différence, moi, je trouve que ces enfants ont des réactions extraordinaires et ils sont très sains dans leurs propos. La différence, je crois, qu'il y a entre les deux journalistes, c'est que vous en avez un à Washington et un autre qui a vécu en direct, parce qu'il vit à New York, les événements de New York. Et donc, je crois que, si vous voulez, dans les choix de réponse, quand on a du recul, quand on est à Washington, quand on est confronté à un direct comme ceci, eh bien, c'est plus facile de répondre à Washington que de répondre quand on a vécu vraiment, parce que le correspondant d'LCI était à côté hein, du moment des buildings de l'attentat.
On se souvient que c'est lui qui l'avait commenté. Oui.
Donc, je crois que c'est quelqu'un qui a vécu très fortement le premier attentat.
Et donc, il est marqué par ça.
Et donc, il est marqué. Et la petite, une des petites, a une réponse très, très juste. Elle dit, ça va trop vite dans la tête des journalistes. Et je crois qu'il faut penser à ce que c'est qu'un direct quand on est sous pression aussi.
Une réaction, 3 heures de direct le lundi après-midi, c'était bien justifié?
Moi, je pense. Le traumatisme était tel après le 11 septembre. Dès que ce nuage de fumée est arrivé, tout le monde a eu peur, tout le monde pensait au 11 septembre. Et je pense qu'il fallait prendre le temps, avec la prudence nécessaire, d'éclaircir les choses et d'essayer d'en savoir un peu plus s'il s'agissait effectivement d'un attentat ou pas.
D'accord. Alors, on va arriver maintenant aux images de Kaboul. On va passer en revue plusieurs images de Kaboul libérées. Évidemment, une des plus fortes qu'on a toujours vues, ce sont les femmes de Kaboul, qui pour la plupart, en tout cas le premier soir de la libération de la prise de Kaboul, gardaient leur voile. On va y revenir dans un instant. Mais ces images avaient été précédées par d'autres voiles sur les plateaux à Paris cette fois.
Oui, c'était samedi dernier, avant la prise de Kaboul, donc, que Latifa, une jeune femme afghane, répondait aux questions de Thierry Ardisson sur le plateau de Tout le monde en parle. On regarde.
« Latifa, bonsoir. Chekeba Hachemi, bonsoir.
Le 27 septembre, c'est vrai que c'était le jour qui a basculé la vie de toutes les femmes à Kaboul, toutes les jeunes filles. Et cette ville est devenue une ville en deuil du jour au lendemain. Et moi, j'étais plus la Latifa de la veille. Et j'ai changé en un jour, effectivement, comme toutes les jeunes filles.
Donc cette jeune femme donc vient d'écrire un livre, c'est pourquoi elle était sur plusieurs plateaux de télévision, dont Vol de nuit, l'émission de PPDA il y a un peu plus d'une semaine, toujours son visage caché sous le tchadri afghan. Latifa est arrivée en France il y a quelques mois, au mois de mai, déjà avec deux autres femmes afghanes, et nous les avons vues dans différents reportages, toujours cachées, mais pas toujours voilées.
Alors, elle le porte pour des raisons de sécurité, dit PPDA dans l'extrait qu'on vient de voir. Et pourtant, elle est en France, donc on pourrait l'imaginer en sécurité. Et c'est vrai que lundi matin, avant qu'arrivent les images de Kaboul, on avait vu cette image et on s'est posé un peu la question de savoir s'il n'y avait quand même pas un poil de mise en scène dans ce fait de se mettre en tchadri sur un plateau à Paris.
Effectivement, notamment pour l'intervention chez Thierry Ardisson. Mais j'ai eu Chekeba Hachemi, donc interprète et présidente de l'association Afghanistan Libre, qui accompagnait Latifa ce soir-là chez Ardisson. Elle me dit que non et elle m'explique effectivement que pour des raisons de sécurité, Latifa ne montre pas son visage en public et que pour elle, le tchadri est la manière la plus naturelle de cacher son visage.
Voilà. Et chez Sérillon ?
Et en revanche, effectivement, chez Sérillon, elle est floutée. Alors, d'après le journaliste qui a préparé l'interview pour ce 20h, à partir du moment où Latifa ne porte pas le tchadri en Europe, il ne voyait aucune raison pour qu'il la porte, qu'il l'enfile spécialement pour l'interview. Elle était à côté pour rappeler effectivement la situation des femmes en Afghanistan.
Voilà. Et cela dit, alors, lundi, prise de Kaboul. Et alors, à notre grande surprise de téléspectateurs, le premier soir, les femmes qui sont filmées à Kaboul, pour la très grande majorité d'entre elles, gardent le tchadri.
Les dames non accompagnées sont sorties, mais elles sont toujours méfiantes. La plupart d'entre elles n'osaient pas ce matin retirer la burqa.
En tant que femme, je me sens sereine et libre. Aujourd'hui à Kaboul, nous voulons la paix, nous voulons enlever nos burqas, nous voulons travailler.
Regardez mon fils, dit-elle, c'est un mendiant. Mais cette femme ajoute aussi qu'elle n'enlèvera pas sa burqa, ça ne se fait pas dans son pays. Quand les moudjahidines sont entrés dans Kaboul, j'ai ôté mon tchador. Je suis heureuse de montrer à nouveau mon visage.
Voilà, l'énorme majorité ne les enlève pas. Alors, lundi, vous étiez à Paris, vous étiez de retour, mais quelques temps auparavant, vous étiez sur le terrain en Afghanistan, côté Alliance du Nord. Est-ce que vous avez été surpris par ces images, comme nous, devant notre poste, en tenant compte de l'idée reçue auparavant, idée confortée, par exemple, par l'image de chez Thierry Ardisson, là, idée reçue selon laquelle le tchadri, c'était l'oppression talibane.
Idée reçue qu'on avait aussi. Nous, quand on est arrivé dans la zone d'Alliance du Nord, contrôlée par l'Alliance du Nord, moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé, c'est que les femmes portaient le tchadri. Donc, alors qu'on ne s'attendait pas à ça. Donc, c'est vrai qu'il faut nuancer, c'est vrai qu'il existe en Afghanistan des femmes qui portent le tchadri par tradition, parce que c'est leur tradition et qu'elles ont envie de le porter, ça c'est clair. La différence à Kaboul, c'est qu'à Kaboul, avant l'arrivée des talibans, il y avait plein de jeunes filles, rouges à lèvres, lunettes de soleil, qui ne portaient pas le tchadri. Et quand les talibans sont arrivés, si les femmes ne portaient pas le tchadri, et on a vu, rappelez-vous ces images dans le stade, elles pouvaient, pour certaines, être exécutées. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on s'attendait à ce que Libération de Kaboul, toutes les femmes enlèvent leur burqa. On s'aperçoit que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça.
Mais vous avez été surprise de voir ces images de Kaboul ?
Alors, je ne suis pas surprise, d'autant que dans la zone contrôlée par l'Alliance, il y avait les femmes qui étaient, mettons, médecins dans les hôpitaux, qui, elles, portaient un simple voile. Mais la grande majorité des femmes, effectivement, portaient le tchadri. Parce que c'est une région qui est encore très traditionnelle, mais aussi c'est une région, le poids de l'islam. Et on tend à l'oublier. Parmi l'Alliance, il y a des islamistes convaincus qui pourraient presque faire partie, qui pourraient presque rejoindre les rangs des talibans. J'ai fait une interview de quelqu'un qui refusait d'être interviewé, de montrer son visage à l'antenne, comme le veulent les talibans. Donc, il ne faut pas perdre de vue que la région contrôlée par l'Alliance et les hommes qui viennent de s'installer à Kaboul, parmi ceux-ci, il y a des islamistes convaincus qui ne veulent pas que les femmes retirent leur tchadri.
Alors, on va continuer, évidemment, on a continué à regarder la télé tout au long de la semaine, et au fil des jours, ce qui était très impressionnant, c'est de voir qu'elles étaient de plus en plus nombreuses à l'enlever à Kaboul.
Hier, les femmes, par prudence, avaient gardé leur burqa. Elles commencent à peine aujourd'hui à dévoiler leur visage.
Sur le marché, quelques femmes à visage découvert s'adressent directement aux journalistes présents. C'était injuste avant. On était obligé de porter la burqa. Maintenant, nous sommes libres. On est heureux. Autour de celle-ci, on aperçoit encore de très nombreuses femmes qui portent la burqa. Par peur, par tradition, il est difficile de le savoir vraiment.
Depuis deux jours, elles sont sorties de chez elles. Les plus âgés s'autorisent parfois à enlever la burqa. Nous voulions, dit Tajira, la liberté que nous avions auparavant. Nous voulons réouvrir les écoles de filles. Nous voulons travailler à nouveau. Nous ne voulons plus porter la burqa.
Il aura bien fallu 48 heures pour que les choses effectivement commencent à bouger. Nous avons vu aujourd'hui les premières femmes. Nous en avions vu très peu hier. Aujourd'hui, nous avons vu un peu plus de visages de femmes découvertes sans burqa.
Alors, juste un petit arrêt sur mots. Sur ce plateau, on dit tchadri. Vous aurez entendu que dans les sujets, dans les reportages, on dit burqa. Dans quel cas on utilise l'un et l'autre? C'est une colle.
Ouais, c'est une colle. Parce que j'ai posé la même question quand j'étais au Nord-Afghanistan. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais ça veut dire exactement la même chose. Vous pouvez dire l'un ou l'autre. Mais apparemment, mais peut-être qu'il y a quelqu'un à la table ici qui le sait, mais deux mots viennent de deux langues différentes, c'est ça?
Ça, oui. Pas mal. Alors bon, la solution, c'est que...
La solution, alors moi, c'est Olivier Roy, qui est spécialiste de l'Afghanistan, qui me l'a expliqué. Effectivement, tchadri et burqa, c'est synonyme, sauf que tchadri, c'est afghan, et burqa, c'est pakistanais, mais tous les deux veulent dire voile recouvrant totalement la femme.
L'un est pashtoun, et je crois l'autre est persan.
Ah, l'un est pashtoun et l'autre est persan. Là,
Le pashtoun est parlé essentiellement au Pakistan.
Oui.
Et le persan est parlé effectivement beaucoup par les Tadjiks, par les gens du Nord, par une partie de la population qui parle le persan.
Voilà. Donc la journaliste est plus fine que le spécialiste que vous avez
interrogé. Oui, mais c'est ce qui colle, hein, de toute façon. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'afghan, ça n'existe pas la langue.
Ça veut dire la même chose.
Il n'y a pas de langue afghane.
C'est le persan.
Bon. Et alors, quant au fait de savoir pourquoi les femmes, effectivement, n'ont enlevé leur tchadri qu'avec des réticences apparente. Là, les mêmes spécialistes que vous avez interrogés vous en donnez des explications qui rejoignent un peu celles qui ont été données par les journalistes sur le plateau.
Effectivement, oui, ça rejoint un peu. Bon, il faut savoir que les talibans ont rendu le tchadri obligatoire pour toutes les femmes, mais certaines le portaient déjà avant. Dans certaines familles conservatrices, effectivement, en milieu rural comme en milieu urbain, une femme portera le tchadri pour montrer qu'elle est dans une famille respectable et qu'elle n'a pas besoin de travailler. Et dans les milieux plus pauvres, une femme porte le tchadri pour se protéger des regards extérieurs.
Très bien. Voilà. Merci Sophie. Alors, prise de Kaboul suite, avec évidemment d'autres images dans les journaux télévisés de ces soirs-là.
Oui, alors effectivement, dès le premier soir donc de la prise de Kaboul, on a vu deux types d'images dans les journaux télévisés, avec tout d'abord des images de l'IS dans les rues de Kaboul, avec aussi... des gens qui dansent donc au son d'une musique qu'on peut à nouveau écouter dans la rue. Et autre image très très symptomatique, ce sont ces fameuses images de barbiers, puisque donc tous les hommes ont pu se faire raser la barbe que leur imposaient les talibans. Alors on a également vu un autre aspect donc de la prise de Kaboul avec des images beaucoup plus dures. Ce sont les images des représailles contre les talibans, avec notamment ces images très dures donc de corps. Piétiner
dans le caniveau. Ouais.
Voilà, d'abord dans le caniveau, et puis ensuite, voilà, je vous l'ai annoncé, donc de corps piétiné par la foule. Voilà, donc deux aspects. Voilà.
Donc un peu les mêmes images sur les deux chaînes. Alors en revanche, ce qui est très très différent, c'était les commentaires en ce premier soir des envoyés spéciaux. On commence par les envoyés spéciaux de TF1.
Quelle est la situation ce soir dans la capitale afghane? Est-ce que la vie quotidienne a déjà changé en si peu de temps?
Je serai prudent, je dirais que la situation est irréelle, elle a quelque chose d'irréel. Il y a eu ces scènes de liesse, c'est incontestable, c'est indéniable. Il y a eu ces scènes de lynchage aussi que nous vous avons montrées. Il y a cette ambiance qui est faite, je dirais, des deux, à la fois d'un soulagement énorme et d'une incertitude qui tient à la composition politique future de ce gouvernement afghan.
Et quel accueil leur fait justement la population, autant que vous puissiez voir?
L'accueil est, comme le disait très bien Gauthier Ribinski, l'accueil est entre la peur et le soulagement. Le soulagement parce qu'il n'y a pas eu de bombardement d'artillerie, contrairement aux précédentes conquêtes du pouvoir ici à Kaboul depuis 20 ans. C'est une ville de misère et de souffrance terrible. Mais de l'autre côté, la peur parce qu'il n'y a pas de pouvoir établi, de pouvoir reconnu, solide pour l'instant ici dans la capitale.
Alors ça, c'était sur TF1 et sur France 2 au même moment.
Est-ce que l'ambiance ce matin, aujourd'hui, cette nuit, puisque la nuit est tombée là-bas, l'ambiance est à la libération, c'est une ambiance euphorique, ou est-ce que l'accueil finalement réservé à l'Alliance du Nord est plus mitigé?
Ah non, l'accueil n'a pas été mitigé du tout. L'accueil a été extraordinaire ce matin. Hein. On a vu partir des chars bondés, plein de militaires. Et nous avons pris la route avec eux. Et nous avons fait cette route de la zone talibane jusqu'aux portes de Kaboul. Et là, nous nous sommes arrêtés. Et quand le top a été donné, il était un petit peu moins de midi. Nous sommes entrés et il y a eu des vivas de la population, des acclamations. On avait vraiment l'impression, nous les journalistes étrangers, ce qu'ils appellent les foreigners, et les soldats de l'Alliance du Nord, d'être les libérateurs de Kaboul.
Alors, c'est évidemment pas ici qu'on va les départager sur ce plateau, puisque aucun de nous autour de cette table n'étions à Kaboul. Simplement, tout à l'heure, vous expliquiez la différence entre un journaliste de New York et un journaliste de Washington par le fait qu'ils se trouvaient dans deux villes différentes. Là, ils sont tous les deux dans la même ville. On peut supposer qu'ils ont vu la même chose. Alors, comment s'explique cette différence de perception, selon vous ?
Vous savez, je pense que, enfin, je peux pas parler à leur place, mais je crois que parfois, quand on est sur le terrain, et ça, il faut vraiment être un journaliste de terrain pour le savoir, on est parfois débordé par l'émotion. On a des émotions excessivement fortes qu'on ressent, et il y a parfois une émotion qui prime sur l'autre, tout simplement. Il faut voir qu'on est quand même des êtres humains, qu'on est confronté à une situation d'une intensité extraordinaire. Il y avait cette population de Kaboul qui attendait. Et quand on arrive, parce que c'est vrai, quand on arrive, ça se passe comme ça. Et de temps en temps, sur des endroits où j'ai pu aller, les gens arrivent vers vous, vous acclament, vous serrent les mains, comme si vous étiez un président de la République. C'est assez étonnant.
Alors vous anticipez sur des images qu'on va voir dans quelques minutes. Ben, ouais.
Mais enfin, je vous le dis, je vous dis mon expérience. Et donc, quand on est à ce point bouleversé par une population, eh bien, on retient souvent dans notre cerveau, c'est ça qui s'imprime. Et dans le direct, dans cet moment très intense qui est indirect, eh bien, c'est ça qu'on donne.
Enfin, cela dit, un direct, en général, il est réécrit. Non, on est
non. Alors là, faut très souvent, il faut bien revenir sur cette idée, on a fait un sujet avant, d'abord, on a travaillé comme des fous avant, et on arrive dans le direct, on peut dire, les deux pieds dans le satellite, c'est-à-dire qu'on n'a pratiquement pas le temps de préparer, et on découvre parfois la question à l'antenne, on n'a pas le temps. Ouais. Ce qui est important, c'est de témoigner de ce qui se passe sur le terrain.
Dans le direct, on ne prépare pas, vous le confirmez ? On ne préécrit pas ? C'est pareil sur France 2 ?
C'est souhaitable de préparer. Vous n'avez pas toujours le temps de préparer. Évidemment, si vous avez passé la nuit à essayer de rentrer dans Kaboul, que vous êtes bloqué le matin, qu'on finit par vous laisser rentrer, que vous courez toute l'après-midi, vous faites un 13h, vous faites ensuite un 20h, vous venez de finir votre sujet. Votre sujet, il faut le diffuser. Hein. Une fois que vous l'avez fait, que vous l'avez monté, il faut qu'il arrive à Paris. Priez le ciel pour que vos moyens de diffusion marchent. Vous êtes complètement à la bourre. Et on vous colle devant la caméra, on vous pose une question. Évidemment, il vaut mieux le préparer, mais c'est parfois très difficile.
En tout cas, s'il y a un journaliste qui s'est laissé, disons, emporté par l'émotion, c'est John Simpson, votre confrère, notre confrère de la BBC. Alors, on va voir un extrait de son reportage, de la manière dont il entre dans Kaboul. La séquence commence au moment où l'armée de l'Alliance du Nord est arrêtée à quelques kilomètres de Kaboul.
À partir de maintenant, il n'y a plus de talibans pour résister. Nous sommes à un moment critique. Est-ce que l'Alliance du Nord va s'arrêter ou va-t-elle, comme prévu, continuer de filer vers Kaboul ? Le commandant en chef donne l'ordre de bloquer la route. La grande avancée est stoppée net. Mais Kaboul est là, à nos pieds, tellement proche et si attirante. La petite équipe de la BBC décide alors d'avancer vers la ville par ses propres moyens et à pied. Ainsi, personne ne peut nous prendre pour des soldats. Nous nous frayons un chemin, radio et télé, côte à côte. Ça y est, nous marchons vers Kaboul, nous rentrons dans la ville, il n'y a pas de problème, les gens sont sympathiques, les gens chantent, tuez les talibans. Mais on comprend qu'il n'y a plus beaucoup de talibans en tout cas. Il était 7h53, heure locale, Kaboul était une ville libre. Après 5 ans de règne du régime probablement le plus intégriste du monde. Sous les talibans, les femmes étaient interdites d'éducation. Les hommes fouettés pour s'être rasés. Toute musique était bannie.
Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, John Simpson n'est pas le seul journaliste à s'être mis en scène de la sorte, puisqu'on a également vu sur CNN Julian Mannion, donc rédacteur en chef d'ITN, concurrent privé de BBC. Alors, lui prendre un véritable bain de foule, hein, vous en parliez tout à l'heure, sous l'œil des caméras, pour sa part. Et on a un petit peu l'impression aussi que c'est lui qui a libéré, entre guillemets, Kaboul.
C'est le libérateur de Kaboul, voilà. Hein, y a aucun doute là-dessus. Hein. Oui, vous voulez dire quelque chose ?
Non, mais je veux dire, les gens, quand vous les voyez qui s'agglutinent vers vous, qui veulent vous toucher, effectivement, vous faites ces gestes qu'après, je suis sûre qu'ils même eux-mêmes regrettent.
Non, mais là, on est d'accord. Le problème n'est pas les gestes, mais est-ce qu'il faut les garder dans le montage ? Est-ce qu'il faut les garder dans le montage après ?
Là, on a affaire à deux traditions très différentes. La tradition anglo-saxonne et notre tradition. Dans la tradition anglo-saxonne, vous voyez très souvent les journalistes qui marchent, qui font des plateaux en situation, qui se mettent en scène au milieu de l'image et de l'événement. Dans la tradition française, on n'est pas du tout comme ça, on est beaucoup plus en retrait, on se met très rarement en scène, on peut se mettre, mais on se met plus rarement en scène, on fait des plateaux plutôt de fin. Hein, on n'avance pas, mais ça c'est très anglo-saxon. John Simpson est 15 journées, c'est un peu ce que je respecte énormément.
Ouais,
et,
enfin,
très anglo-saxon.
Ouais, ouais. Même en Angleterre,
même en Angleterre
ça a suscité des
problèmes. Il a été critiqué, évidemment.
Très critiqué, alors effectivement, sur la mise en scène et sur la mise en mots aussi qui a accompagné la mise en scène, puisqu'il a expliqué que c'était vraiment grisant de libérer Kaboul, donc effectivement, il y est complètement. Et il y a quand même le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation, effectivement, qui a dit qu'il était médusé d'entendre que John Simpson avait pris Kaboul. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que même...
Il ne le dit pas qu'il a pris.
C'est grisant de libérer Kaboul.
C'est lui qui l'a dit. Voilà. Et donc parmi les réactions, il y en a eu plusieurs, mais il y en a une autre que je voulais vous donner parce qu'elle est assez amusante, c'est que même donc Julianne Mannion, l'autre journaliste, donc on a vu prendre un bain de foule. Alors lui aussi s'est moqué de son confrère en se demandant qui des B-52 et de Simpson avait le plus fait pour chasser les talibans. Donc effectivement, même en Grande-Bretagne, ça a suscité une petite polémique.
C'est un peu too much. Le gilet pare-balles au milieu des enfants, en plus, c'est grotesque. Mais il faut dire au moins quelque chose, c'est que les équipes qui étaient avec Simpson ce jour-là, je veux dire, sont arrivées parmi les premières à Kaboul. En tous les cas, nous, d'après les meilleures images qu'on a reçues à Paris sur la libération de Kaboul, sont souvent des images BBC. Ils sont partis très tôt dans la nuit. Vous avez les seules images, par exemple, de tirs dans les faubourgs de Kaboul sont des images BBC. Les seules images de talibans arrêtés sont des images BBC. Donc il y a eu un travail formidable qui est fait. Ça, il faut rendre honnête. Et du coup, c'est vrai que c'est pas notre tradition de faire ça. C'est too much, c'est un peu ridicule, c'est un peu. Et du coup, même ça décrédibilise, j'allais dire, le travail qui est fait par les gars qui sont autour de lui, qui ont fait un travail fantastique parce que ces images qu'on voit là, elles sont exceptionnelles.
Mais c'est la question qui s'impose parce qu'on dit en français suivre une armée. Un journaliste suit une armée, mais là dans l'image, il ne la suit pas, il la précède.
C'est Général Simpson qui arrive. Ouais.
Est-ce qu'il y a des moments où il faut précéder l'armée? Comme il le fait là, l'armée est arrêtée, lui veut y aller, il la précède.
Je ne suis pas sûr qu'il la précède.
Ah si, il la précède.
Il parle des tanks qui se sont arrêtés, mais je pense qu'il y avait sûrement, il y avait des gens qui étaient sûrement, enfin on ne le sait pas dans son reportage, je pense qu'il y a les équipes de nuit qui étaient déjà arrivées.
Enfin, l'image qu'il donne, c'est l'image de journaliste qui précède.
Juste une question, vous dites le gilet pare-balles, c'est un petit peu ridicule, et en même temps, il est parmi les premiers à rentrer dans Kaboul, donc ça vous paraît choquant qu'il ait un gilet pare-balles?
Je vous dis un truc, moi je pars du principe que si... C'est des questions très très difficiles, ça. Le choix du port du gilet pare-balles dans les zones dangereuses, c'est un choix qui est vraiment personnel, qui est complètement personnel. Donc, s'il estime qu'il doit le porter, c'est son souci. C'est pas tant le fait qu'il le porte qui me gêne. C'est le fait qu'il se fasse filmer.
David Abitler, sur ces images?
Paradoxalement, depuis le temps qu'on nous dit que les médias peuvent faire bouger les frontières, ou qu'ils peuvent éclairer ou apporter la liberté, ou qu'ils pèsent sur des rapports géopolitiques, moi j'ai le sentiment finalement que ça concrétise cette symbolique-là, c'est-à-dire qu'effectivement le journaliste anticipe sur un résultat, se prend pour un libérateur, mais on a quand même dit que la presse était un moyen de faire progresser la liberté, donc là on a une application de ça, même si elle est un peu iconoclaste et qu'elle est critiquable du point de vue du métier.
Pour vous, il fallait faire ces images, il fallait les diffuser. C'est des images qui symbolisent effectivement...
Elles symbolisent, en même temps ça ne m'étonne pas qu'un journaliste pris par l'éthique ou l'idée noble qu'il a de son métier se laisse aller à ça. C'est pas tellement surprenant.
Très bien. Échange sur cette image qui le méritait, effectivement. Pour en terminer avec Kaboul, le jour même où l'Alliance du Nord y entrait, Al Jazeera, la chaîne qatari d'information en continu sur laquelle on s'est souvent arrêté ici, cessait d'émettre. Et voilà en quels termes c'était annoncé sur France 2.
On peut noter aussi au passage que la chaîne de télévision Al Jazeera a plié bagage. Son correspondant à Kandahar a quitté le pays. Son correspondant à Kaboul est, lui, porté manquant.
Alors, il manquait quand même dans cette brève mention une information assez importante, c'est que le siège d'Al Jazeera avait été bombardé par les Américains et les images existaient puisqu'on les avait vues quelques instants avant sur LCI, les images du bombardement d'Al Jazeera. Voilà, je pense qu'il fallait simplement l'ajouter. Beaucoup d'images et beaucoup d'informations, on vient de les voir et les entendre, sur la prise de Kaboul, ce qui n'avait pas été le cas la semaine précédente à propos de la prise de Mazar-i-Sharif. Un petit montage.
Cependant, plus au nord du côté de Mazar-i-Sharif, les combattants de l'Alliance du Nord affirment être aux portes de la ville.
Depuis plusieurs jours, des combats seraient engagés au sol entre talibans et opposition. Offensives et contre-offensives se succéderaient La ligne de front serait à quelques dizaines de kilomètres au sud de Mazar-e-Sharif.
Les forces de l'Alliance du Nord ont annoncé avoir progressé jusqu'à 8 km au sud de la ville de Mazar-e-Sharif.
Sur le front au nord, près de la ville de Mazar-e-Sharif, des informations contradictoires nous parviennent, aucun journaliste n'étant sur place.
D'après les rares informations qui nous parviennent, il n'y a pas de journaliste sur place.
Seules ces images nous parviennent du nord. Les manœuvres des soldats de l'opposition, au loin, sur les collines, les bombardements de l'aviation américaine.
Ces images de Mazar-e-Sharif datent de 1997. Nous n'en avons toujours pas de récentes. Aucun journaliste ne peut se rendre sur place pour l'instant.
C'était il y a 3 semaines. Ces combattants de l'Alliance du Nord se battaient farouchement à quelques dizaines de kilomètres de Mazar-e-Sharif. Soutenus par l'aviation américaine, les troupes du général Dostum, l'Ouzbek, auraient fait sauter ce soir ce verrou du nord de l'Afghanistan. D'autres bombardements, plus à l'ouest, sur la ville de Mazar-e-Sharif. Selon la télévision du Qatar Al Jazeera, ces images pourraient provenir de cette ville prise par l'Alliance du Nord hier.
Des images anciennes, déconditionnelles, pas de témoins sur place, alors que des informations font état de dizaines et d'une centaine de morts lors de représailles à Mazar-e-Sharif. Alors, pas de journalistes français, par exemple. C'est parce qu'on ne le veut pas? C'est parce que les chaînes, les médias ont fait le choix d'être plutôt ailleurs? Ou c'est parce qu'on ne le peut pas?
Non, faut être très clair, parce que personne ne pouvait aller à Mazar-e-Sharif. On est dans une zone... La plupart des journalistes étaient en Pakistan. La plupart des journalistes étaient au nord, à Afghanistan, dans la zone contrôlée par l'Alliance du Nord. Tout le reste de l'Afghanistan, pas un journaliste.
Pourquoi?
À part Al Jazeera. Vous ne pouvez pas y aller, les talibans vous interdisent. Si vous y allez, on a vu des journalistes qui sont rentrés déguisés avec enfants.
Mais après la prise de Mazar-e-Sharif, pourquoi on n'était pas avec la partie de l'Alliance du Nord qui a pris Mazar-e-Sharif?
Okay. Entre la ville de Mazar-e-Sharif et le reste, comment vous y allez? Il vous faut un hélicoptère à ce moment-là, et vous risquez de vous faire allumer dans le ciel. Par le sol, c'est impossible. Par l'Ouzbékistan, c'est impossible. Par le nord-Afghanistan, c'est impossible. Vous ne pouvez pas accéder à cette zone. Donc vous êtes privé d'informations.
Il se passe quelque chose d'essentiel. Et si on avait été auparavant avec les forces qui ont pris Mazar-e-Sharif, à ce moment-là, on aurait pu entrer avec elles, comme ça s'est produit à Kaboul.
C'était le rêve du sud. Et ces forces-là venaient du sud. Donc il aurait fallu aller au centre de l'Afghanistan. Et pour aller au centre de l'Afghanistan, comment vous y alliez? Il fallait aller avec les talibans ou avec un hélicoptère de l'Alliance. Et l'Alliance ne pouvait pas, parce qu'ils ont deux hélicoptères, emmener des journalistes.
Enfin, l'Alliance a transporté des journalistes par hélico ailleurs.
Dans les zones où ils allaient eux-mêmes pour faire leur propre ravitaillement aller-retour. Donc ils en emmenaient de temps en temps dans un sens. Et puis je peux vous dire qu'ils en emmenaient très peu.
C'est-à-dire quand on voulait rentrer...
Nous, on essayait d'y aller, on a attendu tellement longtemps qu'on a décidé après de partir par la route. Ils utilisaient très peu leur hélicoptère pour des journalistes.
D'accord. Alors, c'est précisément en tentant d'aller, je crois qu'il faut le rappeler quand même dans cette émission, en tentant d'aller vérifier des informations sur la prise d'une ville que trois de nos confrères, dont on va voir les images, Johan Sutton, Pierre Billot et Volker Handloy, ont trouvé la mort le 11 novembre dernier, ce qui pose évidemment avec une particulière acuité le problème de la vérification des informations quand on se trouve en zone de guerre. À propos de ces trois morts de confrères, une réaction singulière du directeur de l'information de TF1, Hélène.
Oui, effectivement, qui donc déclarait donc dans une interview du Monde, publiée dans Le Monde, que monter sur un char, ce n'est pas le rôle du journaliste, c'est risquer d'être pris pour cible et qu'il y a suffisamment de risques inhérents à ce métier pour ne pas en rajouter.
Vous êtes d'accord? La journaliste de TF1 en premier, c'est son directeur de l'info qui dit ça?
Écoutez, je crois que poser la question à quelqu'un ici à Paris, qu'est-ce que vous pensez après la mort surtout de nos deux confrères qui nous a tous profondément ému et bouleversé, enfin nos trois confrères, mais de deux confrères français, parce que j'en parle deux parce que je les connaissais, je crois que c'est presque indécent, parce que comment peut-on poser à quelqu'un une question dans un bureau? Est-ce que vous laisseriez vos journalistes monter sur un char?
On peut poser toutes les questions, non?
Mais je crois que c'est une question qui est très difficile à répondre. Il faut être allé sur le terrain pour savoir qu'on ne peut pratiquement pas répondre à cette question. Parce que quand on est sur le terrain, on découvre qu'il n'y a pas de règles, que toute situation est complètement unique, et que donc, on ne peut pratiquement pas répondre à cette question. Et on se l'est posé tous, nous, dans l'intimité. Et peut-être, si vous me l'aviez posé, j'aurais essayé de vous répondre, oui, peut-être. Alors, spontanément, je vous dirais oui, puis en réfléchissant, je vous dirais non. Je crois que c'est une question à laquelle les gens qui vont sur le terrain, réellement, tout au fond d'eux-mêmes, ne peuvent pas répondre.
Claude Samper?
C'est indécent de... Les décisions sur le terrain, on les prend sur le terrain. Je veux dire, moi, je ne laisserai jamais personne à Paris, à des milliers de kilomètres, faire ce genre de remarques. On n'est pas des frappadingues, on n'est pas des cinglés, on n'est pas des fous. On essaie de faire notre boulot, simplement. C'est vachement compliqué. On le rappelait il y a un instant, en Afghanistan, vous ne pouvez pas accéder au centre de l'Afghanistan, vous n'avez pas le droit d'y aller. Vous nagez dans un océan de propagande fait par les gens de l'Alliance du Nord, vous nagez dans un océan de propagande fait par les Américains. Donc il faut essayer d'y aller, il faut essayer de vérifier les informations. C'est très difficile de prendre des décisions sur le terrain. En télévision, on les prend avec l'équipe, l'équipe avec laquelle on travaille. Alors, on regarde la carte, on y va pas, qu'est-ce qui s'est passé, quelle information on a, quelle information on n'a pas. Et puis parfois on se fait avoir, parfois on n'a pas de chance, parfois on se fait taper. Et parfois, on ne revient pas de mission. Mais il faut. C'est pas quelqu'un à Paris qui va porter un jugement sur ce qu'ont fait les gars là-bas. C'est tellement difficile de prendre les décisions sur place. Parfois, traverser une rue à Gaza ou à Ramallah, c'est extrêmement dangereux. C'est encore plus dangereux que de monter sur un char. Et personne ne va vous dire, mais pourquoi vous avez décidé de traverser la rue et tout, etc. Donc les décisions, on les prend sur le terrain. Les gars qui les prennent réfléchissent à ce qu'ils font, essayent d'y aller. Et parfois, ils se font avoir.
Voilà, je pense que c'est pas nécessaire non, mais
je crois qu'il faut dire une chose aussi, c'est que les décisions, cette question, à mon avis, la question même, j'insiste, elle était dure à poser. Et je crois qu'aussi chaque rédaction est complètement marquée par ses propres drames. Et que peut-être notre sévérité à nous, qui vous a choqué apparemment dans la réponse, c'est que nous, on a eu deux drames qu'on a vécu en 93, et j'ai envie d'en parler, parce qu'on a eu deux confrères que je connaissais très bien, Yvan Scopan et Jean-Claude Hummel. Et vraiment, je crois que tous les directeurs de l'information qui se respectent sont obsédés par cette idée du risque. Et eux, ils ne voudraient pas qu'on monte sur un char, ils ne voudraient pas qu'on monte sur une Jeep. Ils voudraient qu'on soit toujours avec notre gilet pare-balles, notre casque en permanence.
C'est les consignes qui vous sont données avant le départ. On vous dit, soyez prudente.
En permanence, même on nous rattrape sur le terrain tous les jours. Moi, chez Crevain Manès, nous appelle en nous disant, est-ce que vous mettez bien votre gilet pare-balles? Est-ce que vous mettez bien votre casque? Et c'est vrai qu'en dernier ressort, c'est nous qui choisissons sur le terrain, et c'est pour ça que cette question est très dure à répondre, et c'est pour ça que je vous ai employé le mot indécente, parce que c'est facile quand on est à Paris de poser la question.
Oui, enfin, en tout cas, personnellement, je dois vous dire que ce qui me paraît plus incongru, c'est la réponse que la question, parce que
la réponse vous semble incongrue parce que vous avez peut-être pas été confronté au drame qu'il a vécu, d'avoir annoncé à deux familles la mort de ses enfants. Et je crois que ça, c'est difficile. Et aussi parce que vous ne vous rendez pas compte ce que c'est qu'être sur le terrain et d'avoir à diriger des gens qui sont sur le terrain. C'est très facile
bien. Vous l'avez très bien dit. Alors, tout ça, on le disait, pose le problème de la difficulté de trouver des informations dans l'océan de propagande contradictoire que vous évoquiez, de la difficulté de tourner des images originales. Il y a une équipe qui semblait s'être particulièrement bien débrouillée, c'est l'équipe du vrai journal de Canal+, il y a environ un mois.
Et Massoud, Victor est allé enquêter sur les circonstances de sa mort et sur pourquoi l'Alliance du Nord avait attendu si longtemps pour annoncer qu'il était réellement mort. Donc tu en reviens, pas en grande forme d'ailleurs, puisque tu as chopé 2-3 virus là-bas. Mais...
Ouais, non, mais ça faudrait. C'est pas contagieux, il faudrait que je vous embrasse, donc ne vous inquiétez pas. Non, ben on va regarder, il y a pas mal de failles en fait sur la sécurité de Massoud, donc on va en parler après, on regarde d'abord.
D'accord.
Là, et donc pour résumer, dans le reportage, on voyait notamment trois images vraiment inédites. C'était donc le transport donc en avion du corps de Massoud avec ses proches, les funérailles de Massoud aussi, et une interview de son fils réalisée quelques jours après son enterrement. Donc effectivement des images très fortes. Si on en avait parlé, on disait que c'était un véritable scoop. Alors, ce que ne précisait pas effectivement le vrai journal, c'est que ces images ont été tournées par le caméraman donc attitré de Massoud, qui s'appelle Youssef Janizar, et qu'effectivement donc le vrai journal s'était contenté de les racheter, ce qui est, m'a-t-on expliqué, un oubli, une erreur, et pas du tout une volonté de...
Un oubli de signature, voilà.
Oui, justement, concernant les images justement tournées par les caméramans proches des soldats de l'Alliance du Nord, je crois qu'ils ont énormément de caméramans, vous allez peut-être pouvoir le confirmer. Et les images qu'on a vues tout à l'heure de Mazar et Sharif ont été tournées, m'a-t-on expliqué, par des reporters qui travaillent pour l'Alliance du Nord.
C'est ce qu'on m'a expliqué. Moi, je connais l'histoire.
Et alors, l'histoire, c'est quoi?
Enfin, parce que quand ces images sont arrivées, quand on m'a dit qu'elles étaient arrivées, nous étions tous les deux en Afghanistan au moment où ces images de charge ont été filmées. Et tout de suite, j'ai voulu savoir comment, puisque nous étions nous-mêmes là-bas, comment les journalistes avaient pu avoir ces images. Il semble, d'après les informations que nous avons obtenues, que ça soit effectivement une équipe de télévision allemande qui ait confié la caméra, une petite caméra VHS, etc., à des combattants plus ou moins, ou des gens proches des combattants de Dostum. Et c'est eux qui sont partis, parce qu'il fallait 8 jours à cheval pour rejoindre les fameux combattants, et que donc on pouvait passer que dans des conditions. Donc ce genre de pratique se fait.
En l'occurrence, en Afghanistan, c'est une pratique à laquelle vous avez eu recours aussi, ou vous n'avez envoyé à Paris que des images que vous aviez vous-même filmées?
Je n'ai pas confié de petite caméra à quelqu'un pour...
Faites sans père non plus.
Non, jamais.
Et je n'ai pas vu, contrairement à ce que vous dites, alors ça, votre remarque m'étonne beaucoup, je n'ai absolument jamais vu les combattants de l'Alliance avec des caméras.
On m'a dit que c'est arrivé.
Franchement, jamais vu dans toute la région du diocèse. Si nous avons vu des combattants, je n'ai jamais vu ça.
Bah, c'était peut-être pas au même endroit. Hein.
Il y avait deux fronts.
Comment l'a vu?
Il avait son caméraman. Depuis 15 ans.
Comme on l'a vu, il y avait plusieurs fronts. Voilà. Alors, avant la conquête éclair de Kaboul, sur laquelle on vient de s'arrêter, il y avait eu, du côté de l'Alliance du Nord, de longues semaines d'attente, où il ne se passait pas grand-chose. Alors, comment mettre l'attente en image grâce à une coopération exemplaire entre journalistes et combattants?
C'est calme pour le moment, mais je vais les réveiller, dit-il en souriant. Et quand on lui demande s'il va reprendre Talokwan, il répond
«
Bien sûr, et vite. » 3 minutes plus tard, il ouvre le feu. 2 obus sur des montagnes à plusieurs kilomètres. Le commandant Daoud est content. « En plein dans le mille, » dit-il à ses hommes. Ils n'ont pas l'air vraiment convaincus.
La pression sur les talibans augmente depuis 48 heures de ses positions situées à l'extrême nord du front. Les moudjahides pilonnent à intervalles réguliers leur ennemi.
Voilà, il se passe en ce moment exactement ce qui était prévu ici sur la ligne de front. Après les frappes américaines, une augmentation des opérations militaires.
Alors, qu'est-ce qui vous fait rire?
Non, c'est le cadrage, on va dire.
Le cadrage, c'est effectivement...
Il est bon moment, au bon moment.
Disons que le coup de feu est assez opportun. Voilà, le tir est assez opportun.
Le cadrage est étonnant.
Alors, question faussement naïve, vous avez la chance extraordinaire d'arriver au front à l'instant précis où ça tire, ou ça se passe un tout petit peu autrement parfois?
Alors, écoutez, je pense qu'il y a une question qui est récurrente dans toutes les guerres, et moi qui m'avait beaucoup marqué lorsque j'ai commencé dans les années 80, on me disait c'était le Liban. Oh là là, tu vas avoir les... combattants, ils tirent quand tu veux, comme tu veux, il suffit de leur donner quelques billets et ils tirent pratiquement. Alors ça s'est toujours passé. On peut toujours, effectivement, parce que ces combattants ont un côté enfantin et parfois ce sont des gosses. Et effectivement, pour vous, ils peuvent vous dire, on va vous tirer un obus. Enfin, bien que tirer un obus, ils avaient tellement peu d'obus que franchement, ils n'en tiraient pas beaucoup pour la presse. Je ne pense pas. Là, c'était parce qu'il était avec un commandant.
Mais quand même quelques-uns.
Attendez, non, je n'ai jamais vu ça. Moi, personnellement, on n'a jamais tiré un obus pour me faire plaisir. C'est une seule fois, on m'a dit, on va utiliser la mitraillette pour... On m'a pas dit, on va vous tirer. Il a voulu, parce qu'on était là, et la mitraillette s'est enrayée. J'ai utilisé cette image pour dire que les machines... Mais franchement, je crois qu'il faut aussi... Ouais. Il y a peut-être deux types, ou peut-être une minorité de journalistes qui font faire, effectivement, qui demandent...
Mais vous ne l'avez jamais fait faire.
Nous ne l'avons jamais fait faire.
Bon, Claude Tempère, vous diriez aussi que les combattants, pendant toute cette campagne, n'ont jamais tiré un obus pour vous faire plaisir?
Non, c'est pas ce que je dis.
Si.
Je dis que je ne l'ai jamais fait faire. Attendez, soyons très clairs là-dessus. Nous, avec mon caméraman, Patrick Delporte, nous n'avons jamais demandé à quelqu'un qui tire pour nous, devant nous, pour faire de l'image. Les combattants tirent, et ça c'est très important, quand aussi on connaît le terrain, il y a des heures de tir. Très souvent on tire très tôt le matin, et on s'arrête vers 10h30, 11h, et parfois on retire très tôt, très tard le soir. Pourquoi? Parce que la journée, il y a beaucoup de sable, on ne peut pas tirer. Alors, si on se lève tôt, et on a de la chance d'avoir quelques tirs...
Ce qui a été votre cas?
Une fois ou deux, mais pas tout. J'ai fait des sujets que vous avez pu voir. Vous avez des sujets où on montrait que tout était calme.
D'accord.
Claude Tempère?
On a vu au nord Afghanistan que c'était calme, plusieurs équipes de presse, effectivement, qui avec quelques bouteilles de vodka et quelques dollars, qui faisaient, sans dollar, ça paraît excessif, mais
c'est des journalistes
qui faisaient tirer les combattants. On a vu ça plusieurs fois. Moi, j'ai vu une équipe espagnole qui a fait
qui a fait monter des gars en haut d'une colline, qui les a fait descendre avec les flingues à la main. Et comme c'était pas assez génial, on les a fait remonter en haut de la colline et on les a fait redescendre avec toujours les flingues à la main, mais ils criaient.
Non, mais Claude, ça c'est pas tiré. Ça c'est pas tiré. Tiré, c'est complètement. Non, attendez. Ils font du cinéma effectivement de temps en temps. Moi, je veux dire, une fois, j'étais dans une caserne, ils ont fait un défilé militaire pratiquement pour nous. Là, on souligne, on dit que c'est pour la caméra. Mais je crois que bon, moi, je me suis pas trouvé.
Une mise en scène comme celle que décrit Sampère, c'est acceptable. En revanche, tiré, non.
Non, non, attendez, rien n'est acceptable. Rien n'est acceptable. Tirer pour la caméra n'est pas acceptable. Faire une mise en scène pour la caméra n'est pas non plus acceptable. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé, j'ai même été choquée. J'étais toute jeune journaliste, je commençais de voir que ça se pratiquait. Ça se pratique toujours. Je crois qu'il ne faut pas en faire une règle. Et il faut aussi savoir que ces gens-là tiraient effectivement régulièrement à des heures où très souvent les journalistes avaient la flemme de se lever pour aller ou parce que la route était trop longue. Et effectivement, il y en a. Mais moi, je ne les ai pas vus. En inverse de toi, je n'ai pas vu ce genre de prix et de bouteilles de vodka. Mais j'ai vu la mise en scène puisque j'en ai parlé.
Sans peur est sceptique hein, sur le fait que vous n'ayez pas vu. Hein.
Mais je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vérifié. Ah. On ne peut pas être sceptique. J'ai entendu que ça se pratiquait parce que ça se pratique toujours. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on était chaque fois seul.
Oui.
Je ne me suis pas trouvé avec d'autres confrères sur le terrain, sur des zones de tir.
Vous étiez au même endroit à peu près au même moment, mais dans la journée, vous partiez chacun sur un lieu de reportage différent.
Ah oui, parce que quand même, la ligne de front est très longue.
Oui. Vos équipes ne sont jamais parties ensemble.
Non, on n'est jamais parties
ensemble. Comme on voit d'ailleurs, puisque Sampère a vu des choses que vous n'avez pas vues.
Et puis moi, j'ai vu des choses qu'il n'a pas vues.
Vous étiez quand même autour de la même ville.
Non, parce que vous voyez, par exemple, on s'est déplacé à Farrar, qui était à 150 km, 8 heures de route de là. Donc on a vécu. Moi, je suis partie 3 jours avant toi, et puis après, il est parti. Donc pendant 8 jours, on s'est pratiquement pas vu.
Très bien. Alors, en tout cas, on en parle autour de ce plateau avec une plus ou moins grande liberté. Le phénomène nouveau nous a-t-il semblé, c'est que dans vos propres reportages, quand se produit ce que vous estimez être des mises en scène, vous le dites et vous le montrez. Un petit montage.
Plus au sud, des compagnons d'armes du général Dostum, un des chefs militaires de l'Alliance, attendent l'ordre d'avancer. Les informations dont ils disposent sont encourageantes. Les défections dans le camp adverse se multiplient. Après le défilé organisé pour la caméra, l'entraînement peut reprendre.
Le travail sur le terrain, y compris sur la ligne de front, est d'autant plus facilité que les combattants et leurs commandants semblent heureux de voir les journalistes qui leur ont si longtemps fait défaut. Ici, pas d'image interdite.
En quelques minutes, cette ligne de front est envahie par la presse. Les journalistes placent les soldats dans les positions de défense et les filment à volonté. Une guerre mise en image. Une guerre qui, ici en tout cas, n'a pas encore commencé. Et quand le journaliste se trompe, il rappelle le soldat pour qu'il reste bien en place devant la caméra. Sur le chemin du retour, nous croisons un seul camion avec des canons d'artillerie. Il stoppe devant nous et tout de suite, le Moudjahidin qui le pilote nous propose une petite démonstration. Vous voulez que je tire? Vous voulez que j'allume les talibans?
Ok.
Ok. Et 30 secondes plus tard, la démonstration a lieu.
Bon, alors évidemment, on peut le dire autour du plateau, mais en image, c'est encore plus fort, hein, puisque les images que vous avez filmées là sont très fortes. Ce reportage précisément, qui est un reportage de dévoilement des pratiques, disons, habituellement cachées du métier, comment il a été accueilli à Paris par votre rédaction?
Très bien, c'était très content. C'est le premier sujet qu'on a fait. C'est le premier sujet qu'on a fait. On venait d'arriver, on était arrivé la veille. C'est le premier sujet qu'on a fait.
On vous l'avait demandé à la limite?
Non, pas du tout. Non, on nous demandait la guerre, nous. Il n'y avait pas la guerre. Nous, on nous demandait des tirs, il n'y avait pas de tirs, il n'y avait pas d'offensive à ce moment-là. Et nous, on arrive sur cette colline, là, on arrive, il y a un soldat. Le général Youssouf arrive avec 4 caméras derrière, évidemment 10-12 mecs, et ce journaliste place les soldats, les fait filmer, fait son plateau, quand il se gourre, il rattrape le mec et tout ça. Ça nous a frappé, j'ai dit, tiens, c'est marrant. Et montrons ça. Et en plus, je trouve, sur le fond, c'est super important. C'est pas que de montrer des petits arrangements de journalistes, c'est montrer que l'info est essentielle. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'offensive.
À l'époque où vous filmez, oui.
Bien sûr, donc montrons-le.
Étant dit, ça, on dit autant sur éventuellement les petits arrangements de certaines équipes de presse que de la capacité des combattants ou de certaines troupes à les utiliser pour faire leur propre communication. Je ne vois pas pourquoi on autoriserait l'armée des États-Unis à faire de la communication avec les journalistes et pourquoi eux s'en affranchiraient. Ils ont le droit aussi d'essayer de manipuler un peu ou d'être complices de ce type d'arrangement.
Sampère ne dit pas autre chose, hein. Il montre. Cela dit, dans le geste là qui est particulièrement fort, on a quand même plutôt le sentiment que c'est le journaliste qui instrumentalise le soldat qui est là en pot de fleurs que l'inverse.
Vous avez vu? Enfin, moi, si vous voulez, par rapport à ce genre de sujet... Je suis très partagée. Je pense effectivement qu'il faut dénoncer complètement les pratiques qui peuvent être faites par certains de nos confrères.
Mais pas à l'antenne.
Complètement à l'antenne. Ce sujet est formidable. Je crois simplement qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas fait par tout le monde. Et ça, c'est important de le dire. Il ne faut pas non plus faire penser que tous les journalistes ils font tirer les combattants. Dès qu'il y a du mouvement, c'est de la mise en scène. Parce qu'on décrédibilise aussi notre profession. Et on prend des vrais risques. C'est pas vrai. Il y avait des tirs dans cette zone. Moi, je peux vous dire que
vous l'avez dit même tout le matin.
Un matin, j'étais sur un point et ça n'arrêtait pas de tirer. J'étais pas à côté des tanks, je les voyais pas. C'est là où j'ai dit 60 obus parce qu'on a pu les compter, grosso modo. Quand je suis arrivée, il n'y en a plus qu'un. Bon, donc il faut faire très attention. Je pense qu'il est essentiel de faire ce genre de sujet peut-être pour dénoncer effectivement certaines pratiques qui se passe, mais Dieu merci, je pense que quand même grand nombre de journalistes ne sont pas comme ça.
Très bien, oui.
Enfin, je n'ai pas le mot dénoncer.
Dénoncer, en parler, le relatif. Montrer ce qui se passe.
Voilà ce qui se passe. On est en haut de cette colline, il se passe ça. Montrons ça, point. Moi, je ne cherche pas à dénoncer, etc.
Mais regarde, il y a aussi, par exemple, la personne, j'aime beaucoup ce plan, quand le journaliste rattrape son soldat à côté.
Son soldat.
Son soldat. Bah oui, c'est pour ça que je dis bien, c'est son soldat. Je le fais intentionnellement. Là, c'est parce que, évidemment, dans le cadre, il veut avoir son beau cadre pour dire « je suis en Afghanistan avec quelqu'un qui symbolise et qui représente la guerre ».
Mais ça veut dire que vous comprenez
qu'à
la limite, vous avez pu faire le même geste.
Je n'ai pas fait ce geste-là, mais je sais que le caméraman et les caméramans avec lesquels on travaille cherchent chaque fois à trouver une image symbolique du lieu où l'on est. Alors, ils vont nous placer, pas besoin d'aller le chercher, très souvent il est là. Le soldat. Ils vont nous placer effectivement à côté de ce qui est le symbole.
Là, c'est différent.
Oui, lui, il le rattrape. Enfin, franchement, il n'avait qu'à lui dire de le décaler. On cherche des images symboliques. Et donc, pour le cadrage, pour le plateau de fin, effectivement, alors là, c'est très marrant. L'image est très drôle.
Merci à tous deux pour vos explications qui étaient très éclairantes sur ces images. Rediffusion de cette arrêt sur image jeudi 11h50. Et prochain arrêt sur image dimanche prochain à 12h30. Au revoir à tous. Et voilà, c'est terminé. Si vous avez regardé ou écouté cette émission sans être abonné, c'est que nos abonnés vous l'ont offerte. Sans abonné, pas d'arrêt sur image. Alors vous aussi, abonnez-vous.